Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 novembre 2024 et on est rentré dans une zone qui est un petit peu compliquée, hein, un petit peu compliquée parce qu'il se passe foutrement rien malgré les chiffres qu'on a vus hier, malgré le CPI qui pouvait peut-être éventuellement nous laisser supposer quelque chose. Il ne se passe rien et les marchés n'ont rien fait. Alors c'est vrai qu'on était un petit peu habitué à monter tous les jours depuis que le miracle Trump est arrivé, mais là il se passe rien. Et le pire, ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est que ça risque de durer si on en croit ce qu'on a vu et ce qu'on a lu hier. Alors dans tout ce que j'ai pu lire cette nuit, ce matin, la nouvelle qui m'angoisse le plus, pour être franc avec vous, c'est celle qui dit que les intervenants attendent l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. C'est dans 67 jours. 67 jours sans rien, là, on va faire quoi? On va attendre qu'il arrive? Non, on va faire quoi en attendant? Se balader de chiffres économiques en chiffres économiques pour rien faire en se disant « Ouais bon, ça sert à rien de réagir là-dessus, il faut juste attendre que Trump arrive à la Maison-Blanche. » Ça va être long, mais long. Mais long, je vous dis même pas, enfin, si ça se parle comme ça, parce qu'on sait qu'on change d'avis comme de chemise, mais on sait jamais si c'est comme ça, ça va être long. Donc j'ai encore le secret espoir qu'il va se passer un truc pour réveiller tout ça, un peu, un coup de shaker, mais par contre, depuis deux jours, là, j'ai le sentiment qu'on est en train de plonger dans un coma profond, coma duquel on risque bien de se réveiller seulement le 20 janvier. Pourtant, hier, il y avait quand même les chiffres de l'inflation, là, un truc qui est quand même supposé nous exciter un tout petit peu, et puis, ben surtout, nous maintenir éveillés. Mais là, alors, rien, que dalle, hein, aucun sentiment, aucune réaction. Oui, alors, c'est pas vrai. Il y a eu une forme de réaction parce que le nombre d'intervenants, tenez-vous bien, le nombre d'intervenants qui s'attendent à une baisse des taux au mois de décembre est passé de 58,7% à 82% en tenant compte des chiffres du CPI. C'est vous dire combien c'était excitant, hein. J'ai même eu de la peine à dormir tellement c'était excitant. Pourtant, honnêtement, il y a quand même de quoi s'interroger un tout petit peu au niveau du CPI, si on est un peu objectif. Alors oui, c'était en ligne avec les attentes, à 2,6% en glissement annuel, comme on dit dans le jargon financier. Mais par contre, ce qu'il faut surtout retenir et noter, c'est que c'est la première fois depuis quelques mois que l'inflation ne baisse plus. Dans un monde qui serait pas dominé par le miracle de Donald Trump, ça aurait pu quand même créer quelques tensions, ou au moins générer la peur de voir l'inflation repartir à la hausse. Ouais, d'accord, bon, je sais, je cherche toutes les raisons possibles et imaginables pour rendre le truc un tout petit peu plus intéressant que ce qu'on a vécu hier. Mais, que nenni, le seul point central qu'il fallait retenir hier, c'est que, et je le cite, « Les investisseurs étaient soulagés parce qu'il y avait des craintes comme quoi les chiffres auraient pu, éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, repartir à la hausse. » Voilà, voilà. Ben, on était donc hyper contents hier parce que l'inflation était moins pire ce qu'on aurait pu éventuellement craindre dans nos pires cauchemars. Bah bon, notre acte nous fait une belle jambe parce qu'à la fin, le marché, ben, il a rien foutu quand même. Alors, les performances de la journée, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, elles auront été clairement homéopathiques. Et ça, si on veut être politiquement correct, parce qu'il y a d'autres mots qu'on pourrait utiliser pour ne pas être politiquement correct. Mais hier, on va dire que la journée, les variations de la journée étaient homéopathiques. Alors après, si on a envie d'être complètement objectif au sujet du CPI, on peut aussi aller creuser un petit peu plus loin, un peu plus loin que les chiffres qu'on vous donne comme ça en gros. Parce qu'on vous dit, oui, c'est de plus 2,6 en glissement annuel, oui. Mais c'est joli, c'est mignon de les présenter comme ça, bien arrangé. Mais si on va gratter un tout petit peu plus loin à l'intérieur des chiffres du BLS, ben on va rapidement se rendre compte que la photo, elle n'est pas tout à fait aussi jolie. Mais comme on n'aime pas voir les trucs qui sont moches, ben on ne regarde pas les photos qui ne sont pas jolies. Donc, si l'on découpe les données d'hier en petits morceaux, on se rend compte que l'inflation sur l'assurance automobile, au hasard, est en hausse de 14% en glissement annuel. Que l'inflation des frais de transport, elle, est en hausse de 8,2% en glissement annuel. Donc quand vous prenez le bus, ça vous coûte 8,2% de plus, quand même. C'est plus 2%, c'est 8,2%. Après, l'inflation des réparations sur les voitures, plus 5,8%. L'inflation pour les coûts de maintenance de votre maison aux États-Unis sont en hausse de 5,2%. Les loyers, quant à eux, sont en hausse de 4,6%. Pas 2,6% en glissement annuel, 4,6%. L'électricité, plus 4,5%. Et encore, ça c'est aux States, parce que je vous dis pas comment en Europe c'est pas tout à fait pareil. Et puis l'inflation des services hospitaliers en hausse de 3,9% et l'inflation sur les restos en hausse de 3,8%. Pour les restos, c'est facile, il n'y a qu'à ne plus y aller. Et puis alors, pour conclure, on va dire que l'inflation globale et l'inflation de base sont désormais bien plus élevées qu'il y a 2 mois. On peut même encore rajouter que l'économie américaine a créé beaucoup moins d'emplois ce mois en octobre que depuis la pandémie de 2020. C'est les niveaux les plus bas depuis 2020 en termes de nombre d'emplois créés. Et à côté de ça, vous avez l'inflation qui continue à monter. Donc, on peut facilement conclure que le consommateur américain, il doit rigoler quand même un tout petit peu moyen. Bon, d'accord, Trump est élu et ça va tout changer. Mais quand même, il doit rigoler un tout petit peu moins. D'ailleurs, il y a une autre statistique qui est super intéressante sur laquelle je suis tombé cette nuit. 28% des utilisateurs de cartes de crédit aux États-Unis sont encore en train de payer ce qu'ils ont acheté l'année dernière, hein, donc en 2023. Et tout ça avec des taux à plus de 20%. Ensuite, les soldes moyens des cartes de crédit sont aujourd'hui plus élevés de 6,9% par rapport à 2023 et plus de 20% par rapport à 2022. Donc la dette a augmenté d'autant. Mais bon, on dira que c'est pas grave, parce que si on prend une autre statistique, eh bien on y apprendra que 83% des Américains vont acheter des cadeaux de Noël pendant les fêtes, hein. C'est un grand classique, évidemment, et ils comptent dépenser en moyenne 925 $, ce qui représente donc, en faisant le calcul, 217 millions d'Américains qui vont dépenser plus de 201 milliards contre seulement 184 milliards de dollars en 2023. Alors, par ailleurs, 49% des Américains prévoient de dépenser de l'argent pour des vols ou des hôtels pendant les fêtes de fin d'année, puisqu'ils retournent tous à la maison chez papa et maman, soit 2330 $ en moyenne. Donc, si on recalcule de nouveau ça, eh ben, ça représente plus de 128 millions d'Américains qui dépenseront près de 300 milliards de dollars pour des frais de voyage. Alors, en écoutant ces chiffres, vous me direz, ouais, mais Thomas, ben, ça rigole, l'économie est donc florissante. Ça dépense à tout va, ça, la croissance est là et les gens claquent du pognon. Que demande le peuple? Ouais, vous aurez raison. Sauf qu'en fait, cette débauche de dépenses va aussi faire passer un très très mauvais quart d'heure au niveau de l'endettement qui va encore augmenter pour 2025. Donc l'endettement va exploser encore un peu plus et a priori, ça ne devrait pas être un cadeau de Noël pour l'inflation non plus. Mais pour être franc, je vous donne ça en vrac parce que comme ça, vous êtes au courant et puis vous pourrez raconter des trucs à l'apéro ce soir. Mais pour ce qui est du marché, il faut retenir quand même que ce genre de chiffres, ce genre de données, ce genre de situation, ils sont fous mais complètement. Le plus important pour le marché aujourd'hui, c'est de voir Trump à la Maison-Blanche dans 67 jours et le laisser mettre en place sa magie et qui va régler tous les problèmes, faire baisser les taux, réduire l'endettement et le déficit, maîtriser l'inflation, rendre l'accès à la propriété encore plus facile, fabriquer l'emploi, dynamiser l'économie et faire perdurer le bull market encore et encore pour les 4 prochaines années à venir. Amen. Donc ça, c'est en gros, c'est le plan de base que le marché s'est mis dans la tête. Par contre, en attendant, bah, les marchés ne font absolument rien. Alors la journée dit laisser supposer qu'on préfère quand même ce qui va nous arriver dessus dans 67 jours, que des bonnes choses sans aucun doute, plutôt que de se prendre la tête avec des chiffres qui proviennent simplement du passé, un passé qui n'existe plus de toute manière, puisque les démocrates n'existent plus, tout ce qu'ils ont fait pendant 4 ans, on s'en fout. D'ailleurs, on a appris hier soir que les républicains ont définitivement gagné toutes les élections, tous les postes du pouvoir sont remis aux républicains, et ils vont pouvoir donc transformer l'économie américaine comme ça leur chante, donc il n'y a aucun problème. Même en Asie ce matin, on ne fait quasiment rien, la Chine est à peine en baisse, le Japon est à 0% de variation, il n'y a que Hong Kong qui se balade en 0,88% de baisse. Pourquoi? Bah, parce qu'on se dit que le stimulus, c'est pas suffisant, comme tous les jours d'ailleurs. Finalement, le seul truc qui est en plein délire en ce moment, c'est le monde merveilleux des crypto-monnaies. Petite information, en dehors de la performance du titre, Coinbase est devenue la 2e application la plus downloadée sur l'Apple Store. En moins d'une semaine, elle est passée de la 33e place à la 2e. Traduction, tout le monde veut faire de la crypto et tout le monde veut du Dogecoin pour faire comme Elon. Ce matin, le Bitcoin est passé les 90 000 $ encore une fois, et le Dogecoin, bah, il vaut 39 centimes. Alors le pétrole, tout le monde s'en fout, et puis l'or, tout le monde s'en fout aussi, puisque ce matin, l'or est en baisse à 2567 $. Bref, dans le monde de Trump, Tout le monde est en train, à nouveau, de vouloir devenir crypto-trader. Côté news du jour, il y a Spirit Airlines, qui est en Chapter 11. Donc, voilà, compagnie aérienne en faillite. Ça fait un an qu'ils se bagarrent avec leurs créanciers. Ils n'ont pas trouvé de deal. Le titre s'est pris 60% dans la tête hier. Mais en même temps, 60%, pas grand-chose. Ça reste rien du tout. En plus, ils se sont fait tirer dessus en allant poser un avion à Haïti. Donc, voilà, c'est vraiment une bonne période pour Spirit Airlines, qui est donc en Chapter 11. Hier soir, Cisco a annoncé des chiffres trimestriels qui étaient, on va dire, moins mauvais que prévu, mais quand même on baisse par rapport à l'année passée. Ils ont compensé un peu des mauvais chiffres avec la division service qui a relativement bien fonctionné. Alors les bénéfices sont plus faibles mais quand même meilleurs que le consensus. Ils ont quand même fait des déclarations plutôt positives pour l'avenir, surtout en s'appuyant sur le fait que l'intelligence artificielle va tout changer. Enfin, l'un dans l'autre, les chiffres n'étaient pas catastrophiques, même plutôt bien, moins mauvais on va dire, et puis un management plutôt positif. Bon, ben le marché on a rien à foutre quand même, le titre perdait 3% after close. Et puis on peut aussi noter qu'il y a une grosse demande en ce moment au niveau des obligations ukrainiennes, hein. Il y a pas mal de gens qui sont en train de jouer la thématique que Trump va mettre un terme à la guerre dans 68 jours. Oui, parce que dans 67 jours il va prêter serment, et puis après il aura juste à appeler Poutine pour dire « bon c'est bon, on arrête hein ». Et puis oui je sais c'est un peu ironique, mais c'est pas moi qui commence, hein. Comme on lit dans les journaux, c'est ce que tout le monde anticipe déjà, comme quoi il va faire hop, un coup de baguette magique et le Harry Potter de la Maison Blanche va régler le problème de la guerre en Ukraine. Et puis, petite nouvelle au passage, dans la série ça rigole pas dans tous les secteurs, on a toujours les semi-conducteurs qui ont quand même un peu de la peine pour l'instant. Hein. Il y a AMD qui a annoncé hier qu'il virait 1000 personnes de plus afin de couper les coûts. Alors on espère que le Bureau of Labor Statistics, le fameux BLS, a bien pris note de la chose, histoire de bien les intégrer dans les prochains chiffres de l'emploi. Bon, notez qu'en général, ils se gourdent de 150 000 personnes, alors c'est pas les 1000 d'AMD qui vont changer quelque chose, mais voilà, on espère qu'ils vont quand même faire le boulot. Et puis, histoire de régler le cas de l'inflation, il y a encore un analyste pétrole qui a déclaré ce matin dans un média quelconque, je sais plus, comme quoi si l'OPEP réduisait ses coupes de production, comme on l'attend, eh bien le baril pourrait facilement descendre entre 30 et 40 dollars. Enfin, tant que les Israéliens ne décident pas de transformer l'Iran en grand parking. Et puis, pour terminer, on va encore une fois aborder le sujet des actions Supermicro. On en reparlera encore ces prochains jours fortement, parce qu'on connaît l'histoire. Et si tout va mal, s'ils ne trouvent pas une firme d'audit qui veut s'occuper de les auditer, eh ben, ce week-end, les actions seront délistées du Nasdaq. Mais alors attention, attention, pour ceux qui en ont, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir en faillite. Vous détiendrez toujours vos actions Supermicro, et elles seront toujours négociables, tradables. En fait, elles seront sur un marché qui s'appelle, qu'on appelle le pink sheet. Alors, ce sera juste un peu moins liquide et plus difficile à négocier. Alors, les pink sheets, c'est un autre terme pour désigner des actions qui se négocient gré à gré plutôt que sur une grande place boursière comme le Nasdaq ou le New York Stock Exchange. C'est en gros ce qu'on appelle des penny stocks. Ils ont généralement une faible valorisation boursière. Alors, ils ont des exigences et des réglementations de cotation qui sont nettement moins compliquées et restrictives que sur le Nasdaq. Et donc, SMCI pourrait rester là-bas le temps de régler leurs problèmes. Pour autant qu'ils en soient capables de régler leurs problèmes. Et puis, alors aujourd'hui, autrement, au niveau des chiffres du jour, eh ben, on aura le PIB européen, les jobless claims aux États-Unis et puis le PPI aux USA. Alors, on sait déjà que de toute façon, ces chiffres, peu importe ce qui va sortir, parce que nous, tout ce qu'on regarde, c'est ce qui va se passer le 20 janvier lors de la prestation de serment, puisque là, tout va changer, le monde va vraiment devenir nettement mieux qu'il ne l'est aujourd'hui, donc les chiffres économiques du passé, on s'en fout. On notera quand même que Powell et Lagarde vont parler ce soir, on peut toujours voir s'ils vont les écouter. Autrement, les cryptos continuent de monter, et puis on attend de voir si Trump va nommer Michael Jordan ou alors Shaquille O'Neal comme ministre des Sports. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas de vous inscrire à la chaîne Swissquote en français, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à actionner la cloche. J'ai vu que tout le monde dit ça, alors maintenant j'ai rajouté à actionner la cloche, et puis bah passez quand même une belle journée, et nous on se voit demain pour boucler la semaine. Soyez forts, à demain, bye bye.